Salut à tous et bienvenue dans cette chronique des composants hors série. Alors attention, accrochez-vous bien. Il y avait jusque-là les épisodes Tech Café. Il y avait les épisodes Tech Café hors série. Il y avait les chroniques des composants. Et il y a désormais les chroniques des composants hors série, notamment la chronique des composants hors série qui fait écho à notre débat hors série qui portait sur la protection d'Apple sur les données dans son affaire qui l'opposait au FBI, dont on a déjà longuement parlé, dont on a déjà débattu. Et vous avez d'ailleurs pu, et on vous en remercie, profiter de ce débat en apportant votre petite pierre à l'édifice sur techcafé.fr. On enchaîne donc une nouvelle émission pour aller explorer l'aspect un peu comment ça marche un peu dans le cœur des appareils pour le chiffrement sur la protection des données. Je suis Guillaume Vendée et je suis entouré pour ce nouvel épisode de Guillaume Pogaspala et de Cédric Tamboise. Salut à tous les deux.
Salut à toi.
Salut à vous. Salut à toi.
Comment allez-vous depuis ces derniers épisodes? Bien? Pleine forme?
Un peu pareil.
Bon, ça
ouais,
va.
Ça...
Toujours bien. Comment ça marche Guillaume, concrètement, la protection Durex, Manix, un peu, pourquoi, beaucoup, comment? Ça m'a l'air compliqué tout ça.
Sortez couverts.
Tu peux nous aider à y voir plus clair un petit peu sur comment se protéger, comment protéger les données de manière générale.
Oui, alors en fait, là, le truc, c'est que je voulais commencer par un truc, comment ça marche. Et donc, comment ça marche, c'est assez compliqué parce que la crypto, c'est quand même quelque chose de très compliqué en soi. Hein. C'est un domaine de recherche encore actif, hein, toujours actif.
On en a déjà d'ailleurs parlé, entre parenthèses, quand on abordait les aspects Bitcoin ensemble.
Si oui, absolument, absolument. Mais d'ailleurs, on pourra refaire justement un retour sur Bitcoin pour aller un petit peu plus loin, parce qu'on avait parlé de la preuve de travail sur Bitcoin et c'était justement une épreuve cryptographique. Alors quel type d'épreuve cryptographique? Tiens, c'est bien de me tendre la perche. Donc on rappelle, hein, le Bitcoin, c'est basé sur le blockchain. Cette blockchain, c'est donc un registre qui est virtuel, qui est dématérialisé bien sûr, et qui est partagé par tout le monde. Et en fait, on avait dit que tous les nœuds du réseau travaillaient pour intégrer les nouvelles transactions, et que ces nouvelles transactions, elles étaient intégrées à un certain temps fixe, et que le réseau, en fait, requérait une preuve de travail pour vérifier que le travail avait bien été fait, et pour réguler, en fait, le rythme d'entrée des transactions. Bon, je ne vais pas tout refaire, tout le truc, mais... Donc, comment ça marche en vrai? En fait, c'est basé sur des fonctions de hachage cryptographique. Alors, la fonction de hachage cryptographique, c'est une bonne... Si on parle de cryptographie en général, c'est une bonne entrée en matière. C'est une notion qui est super importante, qui n'est pas extrêmement compliquée à comprendre, mais qui est excessivement complexe à analyser et à mettre en œuvre. Hein. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des fonctions de hachage crypto, comme MD5 ou SHA.
Ouais.
Vous savez déjà tous les deux ce que c'est. Donc, une fonction de hachage, au sens large, hein, c'est quelque chose qui assigne à un... Alors, c'est quelque chose qui associe une fonction, hein, donc c'est quelque chose qui associe un message de n'importe quelle taille, hein, a priori, un résumé qui a une certaine longueur fixe. Donc, par exemple, ça peut être 160 bits pour SHA, il me semble, ou ça peut être 128 bits pour MD5, ou voilà, enfin, bon, je dis peut-être des bêtises, encore une fois, mais on verra dans les commentaires. Et donc, à partir de là, on va se demander, bon, déjà, à quoi ça sert? Et comment on peut faire ça? Alors, la fonction de hachage, à quoi ça sert? Alors, du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous savez de ça? Si je vous posais la question de à quoi servent les fonctions de hachage, vous diriez quoi?
Ça sert à plein de choses. Ça sert à vérifier l'intégrité d'un fichier, par exemple, dans le cadre d'un gros transfert. Quand vous téléchargez, par exemple, une distribution Linux, vous avez la clé de hachage qui vous permet de recalculer vous-même la clé sur la distribution que vous avez téléchargée. Et si la clé d'origine qui vous est donnée est celle que vous avez recalculée la même, c'est qu'a priori, la distribution n'a pas été modifiée dans le transfert ou entre... Par exemple.
Voilà, exactement. Et donc, alors, justement, pour vérifier l'intégrité d'un fichier, il y a une propriété de la clé de la fonction de hachage qui est extrêmement importante, c'est l'effet avalanche. Ce qu'on appelle l'effet avalanche, c'est-à-dire que vous prenez un message qui est a priori de très grande longueur, puisque si c'est une distribution Linux, ça peut être des gigaoctets, et vous en faites un résumé de 160 bits. Bon, le truc, c'est que vous avez une infinité de manières de faire ça, bien entendu. Mais la manière dont on le fait, en fait, doit être telle que la moindre perturbation, ne serait-ce que sur un bit de, du message d'origine, doit se répercuter sur le résumé. Et en fait, c'est pas évident du tout si vous réfléchissez, puisque vous avez 2 gigaoctets en entrée, vous avez 160 bits en sortie, et le moindre bit que vous changez de ces 2 gigaoctets en entrée vous change totalement le message en sortie.
Moi, ça m'a toujours captivé d'ailleurs. Je peux pas expliquer d'ailleurs comment ça fonctionne. Ça m'a toujours
fait. Ben alors, ça fonctionne en fait. Alors, le truc, c'est que, bon, évidemment, techniquement, si vous voulez savoir comment ça fonctionne, vous allez sur Wikipédia et vous regardez les formules, puisqu'en fait, les formules des fonctions de hachage standard, elles sont publiques. Hein, donc, tout est public. C'est-à-dire, les fonctions de hachage principales, en fait, c'est MD5, qui est aujourd'hui plus trop utilisée parce qu'elle a été attaquée plusieurs fois et qu'elle est plus considérée comme sûre. Et vous avez SHA-2, donc, qui est à longueur, qui fait des résumés de longueur, qui peut faire des résumés de longueur différente, en fait. Qui, elle, est utilisée de manière plus ou moins standard. Donc, alors, le truc, c'est que comment ça marche ? Eh bien, en fait, globalement, pour être très, 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 très... voilà, pour résumer ça de manière assez simple, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire ça en plusieurs passes. C'est-à-dire, vous prenez le message d'origine, vous foutez le why dans le message, vous mettez le bordel dans les bits complètement, et vous mettez le bordel de manière à ce que vous faites une fonction non linéaire de ce bordel, donc voilà, et de manière à ce que les erreurs, en fait, des erreurs soient créées, et vous faites ça plusieurs fois de manière à propager les erreurs de partout, en fait. Je sais pas si je suis assez clair. En fait, c'est comme un effet un petit peu chaotique, c'est-à-dire que vous allez faire des passes et des passes et des passes et des passes. Et à chaque passe, vous allez propager un petit peu plus les erreurs. Vous allez donc compresser de plus en plus le message, vous allez propager les erreurs comme ça, de manière à ce que, quelle que soit la différence que vous ayez mise dans votre fichier de départ, cette différence soit propagée et amplifiée pour arriver au résumé final. Et donc, cet effet avalanche, il est extrêmement important parce que, du coup, il permet de vérifier l'intégrité du fichier. Mais il peut permettre aussi, par exemple, de faire des hachages de mots de passe. Ça, c'est... alors, attention, quand je dis hachage de mots de passe, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quand vous loguez sur Windows ou sur Linux ou n'importe quoi, vous entrez un mot de passe. Bon, ce mot de passe, il faut bien qu'il soit comparé au mot de passe que vous avez rentré au début pour que vous puissiez vous loguer.
Sans qu'il soit en clair.
Sauf que, évidemment, voilà, si vous écrivez vos mots de passe en clair sur le disque dur, quelqu'un qui boot avec un autre OS et qui prend votre disque dur et qui
C'était le cas sur des OS pas si vieux que ça, d'ailleurs, hein, si je me trompe.
C'était le cas sur des versions anciennes de Linux, par exemple, hein, sur les premières versions de Linux, sur les premières, c'était le cas. C'était marqué en clair. Et puis ensuite, on a fait un shadowing, c'est-à-dire, les mots de passe ne sont plus stockés en clair. En fait, qu'est-ce qui est stocké ? C'est le hash des mots de passe. C'est-à-dire que les mots de passe sont passés par une fonction de hachage. Quand vous rentrez votre mot de passe à chaque fois que vous loguez, vous passez par la même fonction de hachage et il faut que le résumé soit égal. Alors, par l'effet avalanche, si vous rentrez un autre mot de passe, le résumé sera, avec une probabilité incroyablement, énormément élevée, différent. Donc vous ne pourrez pas vous loguer et c'est bien. Par contre, il y a un autre problème. Parce que, en fait, les fonctions, les résumés, eux, sont écrits en clair sur le disque dur. On est d'accord. Donc, si quelqu'un voit les résumés, il ne faut pas qu'il soit capable ni de reconstruire le message de départ, c'est-à-dire votre mot de passe, mais il ne faut pas non plus qu'il soit capable de créer un autre mot de passe qui est le même résumé. Ça, ah, c'est ce qu'on appelle la résistance à la collision.
Putain, je me serais jamais imaginé qu'un mec essaierait de faire ça, mais effectivement, maintenant que tu le dis, ça me paraît.
Il y a des tordus quand même,
il y a des pervers quand même. Ah ouais,
c'est
inconcevable d'imaginer qu'on ait la puissance de calcul nécessaire qui permet de faire ça.
Détrompe-toi, parce que les MD4, par exemple, c'est quelque chose qui est attaqué et qui est craqué. Aujourd'hui, MD5, c'est plus compliqué, mais il y a des attaques. SHA1, c'est plus considéré comme sûr, c'est pour ça qu'on passe à SHA2, etc. Donc, en fait, une collision, ce qu'on appelle une collision, c'est quand vous avez deux messages qui sont hachés dans le même résumé, et qui ont le même résumé. Et en fait, ça existe, forcément, évidemment, puisque vous prenez des trucs qui font des gigaoctets, vous les recondensez en 160 bits. Donc, bien entendu, il y a une infinité de messages qui ont le même résumé. Mais il ne faut pas qu'on puisse être capable d'en fabriquer. Ça, c'est ce qu'on appelle la résistance à la collision. Il faut que ce soit extraordinairement compliqué de trouver deux messages qui ont le même résumé. Et de la même manière, il doit être excessivement compliqué de concevoir un message qui est un résumé donné. C'est-à-dire, c'est la résistance à l'inversion. Alors, c'est-à-dire, vous avez un hash, vous avez un résumé qui commence par 0, par exemple. Comment vous faites pour trouver un message dont le résumé commence par 3-0? Eh bien, c'est la merde. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Comment vous faites? Eh bien, vous essayez tout, tout simplement. Vous essayez tous les résumés d'une certaine taille, ouais. Par exemple, 256 bits, vous essayez tous les résumés, ou 128 bits, vous essayez tous les résumés d'une certaine taille, et vous regardez lesquels tombent sur un résumé qui... tous les messages, pardon, je veux pas... Donc, tous les messages d'une certaine taille, vous les hachez, vous regardez quand est-ce que le résumé commence par 3-0. Eh bien ça, comme vous n'avez pas le choix que de faire toutes les possibilités, c'est ce qu'on appelle une preuve de travail idéale. Et c'est cette preuve de travail-là qui est utilisée dans la blockchain de Bitcoin. C'est-à-dire que le challenge cryptographique qui est demandé aux mineurs, en fait, c'est de trouver un hash qui commence par un certain nombre de zéros. Et c'est ça la complexité, en fait, de l'épreuve cryptographique d'une blockchain, de blockchain. Et ça, il n'y a pas d'autre moyen, en fait, que de calculer des SHA de manière, d'en calculer énormément. Donc là, on a une première introduction de la cryptographie, quoi, c'est-à-dire cette fonction de hash qui est excessivement importante parce que, quand même, crypter les mots de passe de système d'exploitation, c'est super chaud. Je veux dire, c'est quelque chose d'extrêmement important et il ne faut pas se rater, quoi. Donc il y a des fonctions standards qui existent. Donc il y a Whirlpool aussi, j'ai cité SHA, j'ai cité
MDC. C'est l'avalanche, voilà. Ça, non?
Whirlpool aussi, aussi, ouais, tout à fait. Et donc c'est, voilà, c'est excessivement important et ce sera aussi important dans le concept de signature numérique d'ailleurs. Alors, maintenant, bon, on a parlé des trucs, hein, on a parlé du cryptage de l'iPhone, tout ça, on parle beaucoup de cryptage, là, on a beaucoup parlé de ça dans le Tech Café. Bon, vous connaissez sans doute des trucs, des protocoles de cryptage. Vous en utilisez peut-être.
C'est pas les trucs qui sont utilisés dans les... Oh, je suis con, je devrais regarder notre télévision. Mais c'est pas ça qui est utilisé dans les réseaux Wi-Fi. Tu sais, t'as les mots de passe, t'as web, machin, etc.
Tout à fait. Est-ce que vous utilisez VeraCrypt ou TrueCrypt, par exemple, ou BitLocker?
Ouais.
Vous utilisez ce genre de trucs?
Ouais.
Ouais, bon, mais alors... Alors, en fait, si vous utilisez un des logiciels de cryptage, donc alors ça peut être PGP. Alors PGP, ça utilise encore un autre truc. Mais, enfin, ça peut. Bon, globalement, si vous voulez, si vous cryptez quelque chose en utilisant donc un logiciel, vous allez utiliser un protocole de cryptage standardisé qui est public, qui est parfaitement connu par tout le monde. Et aujourd'hui, vous utiliserez très très certainement AES. Bon. AES, c'est Advanced Encryption System, tout simplement. C'est le standard, ça a été choisi par le gouvernement américain comme étant le standard. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un protocole de cryptage symétrique, c'est-à-dire que vous avez une clé et une seule qui permet de crypter et de décrypter, en fait. Donc, mine de rien, cette histoire de clé, c'est important parce que au début, dans l'histoire, on a crypté des tas de choses, on a fait des trucs secrets. Mais au début, c'était juste des substitutions, quoi, comme l'algorithme de César, où voilà, on changeait des lettres pour certaines autres, etc. Et donc, une fois que le procédé était découvert, ben, c'était foutu. Et après, on a inventé le système de clés.
Donc, tu dis, il y a une clé pour chiffrer, une clé pour déchiffrer. Oui. Est-ce que c'est la même clé qui fait les deux, ou est-ce que c'est deux clés différentes?
Non, c'est la même clé dans le cas de l'AES. C'est-à-dire que dans le cas de tous les cryptages symétriques, donc il n'y a pas que AES, il y a
tout symétrique.
Oui, tout symétrique, exactement. Alors, le truc, c'est qu'effectivement, il y a deux grands types de cryptage. Le cryptage symétrique et le cryptage asymétrique. En fait, ça veut juste dire, dans le cryptage symétrique, vous avez une seule clé qui permet de crypter et de décrypter, c'est la même. Dans le cryptage asymétrique, vous avez deux clés, une qui permet de crypter et une qui permet de décrypter. Alors, les besoins sont totalement différents, en fait. Ça répond à des besoins différents. Le cryptage symétrique, c'est le plus simple à comprendre, plus ou moins, puisque vous avez un fichier, vous choisissez une clé, cette clé peut être de longueur variable, en général on aime bien les grosses clés, AES c'est des clés qui font 256 bits pour la variante la plus costaud, et AES 256 c'est incraquable, C'est-à-dire que vous donnez une clé de 256 bits, vous rentrez votre message qui a une longueur totalement arbitraire, et il est impossible, à l'état actuel des connaissances humaines, de décrypter le truc si on n'a pas le mot de passe. Voilà. Pourtant, le protocole de cryptage EES, tous les algorithmes sont parfaitement connus et standardisés, hein. Mais si vous n'avez pas la clé, il est matériellement impossible de décrypter, en tout cas, il est dans le principe impossible de décrypter quelque chose codé avec EES 256. Et donc, c'est le protocole de cryptage qui est utilisé dans les iPhones, par exemple. Donc, il faut savoir que l'iPhone, c'est un téléphone totalement, enfin, c'est Apple, hein, évidemment, mais c'est un téléphone qui est totalement paranoïaque, puisqu'il est encrypté plusieurs fois, en fait. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, vous savez peut-être que...
Tu es en train de nous dire que la méthode de chiffrement qui est décrite comme inviolable que tu nous décris, elle est doublée.
Oui, tout à fait. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, le truc, c'est qu'elle est doublée pour, de deux manières différentes. Alors, sur un iPhone, vous avez, avant même qu'il y ait un système d'exploitation ou quoi que ce soit, c'est vraiment... vous avez... un processeur, donc voilà, dans le processeur de l'iPhone, vous avez une petite unité qui est chargée d'accélérer le cryptage AES dans tous les iPhones. Et vous avez aussi une identité, un numéro de série, si vous voulez, hein, qui est écrit en dur à l'intérieur du processeur de chaque iPhone et qui est différent pour chaque iPhone. Donc vous avez une identité du téléphone qui est écrite en dur dans le téléphone. Dans le processeur.
D'accord.
Cette identité est inaccessible par personne. Seul le processeur peut y avoir accès, personne d'autre ne peut y avoir accès, pas même Apple. En tout cas, à ma connaissance, même Apple ne peut pas y avoir accès. C'est inaccessible par l'OS, ni par le firmware, c'est accessible par rien du tout. Cette clé, en fait, elle est utilisée pour... c'est une clé qui a une certaine longueur, hein. Elle est additionnée donc d'une clé qui est aléatoire, d'un grain de sel aléatoire, on appelle ça un salt. Il y a une grain de sel aléatoire, et ce grain de sel aléatoire va être utilisé pour crypter l'intégralité des données qui transitent entre la flash, la mémoire flash et la mémoire RAM du téléphone. Donc avant même qu'il y ait un OS sur votre iPhone, vous avez un cryptage total du téléphone. Vous avez une full device encryption directe. Ça sert à quoi ? Parce qu'en fait, vous n'avez pas encore écrit sur votre téléphone. En fait, vous n'avez pas encore écrit. C'est un cryptage qui est au niveau hardware. Qui est même pas au niveau software, c'est un cryptage au niveau hardware. Alors, ça sert à quoi ? Ben, ça sert à ce que vous ne puissiez pas utiliser le SD, c'est-à-dire la flash d'un iPhone dans un autre iPhone.
D'accord, ok.
Vous ne pouvez pas booter la flash d'un iPhone dans un autre iPhone. Vous devez faire toutes les opérations possibles doivent être faites sur un téléphone donné, doivent y rester, en fait. Donc il y a vraiment une forme de paranoïa, mais cette forme de paranoïa, en fait, elle se comprend dans une certaine mesure. C'est une fermeture complète de la plateforme, tout simplement. La plateforme a une...
Ils vendent des coffres-forts, c'est vraiment ça, quoi.
Oui, mais il n'y a pas encore tes données dessus.
Ouais, non, c'est ça qui est fou. C'est que, grosso modo, le châssis du coffre-fort est protégé lui-même par d'autres coffres-forts.
C'est-à-dire que vous pouvez juste, voilà, vous pouvez pas utiliser un disque d'iPhone dans un iPhone, quoi, globalement. Mais alors, ce qui est assez rigolo, c'est que ça a quand même une utilité qui est très intéressante. Parce que quand vous avez donc quand vous avez votre iPhone, vous donnez un mot de passe. Vous donnez un mot de passe, ça c'est un autre niveau. Mais bon, même avant ça, en fait, hein, quand vous avez votre iPhone et que vous voulez l'effacer, vous voulez effacer les données qu'il y a dessus, soit volontairement, soit parce que vous avez rentré plus de 10 tentatives, comme on disait, hein, justement dans tes cafés, vous avez donc, voilà, quelqu'un de malveillant, a priori, a rentré plus de 10 tentatives, le device s'auto-efface. Bon. Comment il fait pour s'auto-effacer ? Est-ce qu'il efface les données qui sont sur le disque ? Absolument pas. Il n'y a pas besoin. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que quand le disque est encrypté au niveau hardware, comme ça, il utilise à la fois l'identité du device et une variante aléatoire pour créer la clé d'encryption, pour créer sa clé maîtresse d'encryption, si tu veux. Bon. Ouais. Cette clé maîtresse d'encryption, elle est écrite dans un tout petit espace mémoire, annexe. Et quand vous voulez effacer le device, Ce que fait l'iPhone, c'est qu'il efface cette toute petite clé. Et c'est tout. Une fois que la clé est effacée, la clé est perdue, à jamais, et donc l'intégralité de l'iPhone et devient totalement indéchiffrable à jamais.
Ah, c'est du bruit.
Donc,
c'est
ce que vous avez, exactement, c'est du bruit aléatoire. Voilà. Donc en fait, vous n'avez pas du tout besoin d'effacer le disque dur, il suffit d'effacer la clé, et ça suffit.
Ouais, alors c'est pour les effacements définitifs, effectivement.
Voilà, pour un effacement définitif, il faut faire un wipe, il n'y a pas besoin d'effacer les données en fait sur un iPhone, il suffit d'effacer la clé et ça suffit. Donc c'est instantané et c'est parfait. C'est-à-dire que quand vous effacez faut savoir, quand vous effacez quelque chose sur un device, hein, que ce soit un disque dur ou même une flash, il y a toujours un moyen d'aller chercher ce qui a été effacé par des méthodes software ou par des méthodes plus poussées. Mais en tout cas, il y a toujours un moyen d'essayer de retrouver. Si vous avez du bruit aléatoire qui correspond à quelque chose qui est encrypté mais dont on n'a pas la clé, toute récupération est strictement impossible.
Mais est-ce que ça veut dire, tu sais, quand on a fini d'utiliser son iPhone, parce que vous savez que c'est des appareils jetables, quand on a fini d'utiliser et qu'on va les revendre et qu'on efface toutes nos données, c'est ce qui se passe concrètement ? Ça veut dire que la clé aléatoire est remise à zéro, style, et...
Oui.
Ah oui, d'accord, ok. Ouais, donc il n'y a pas de... Ok.
Quand vous passez par une encryption qui est full device, c'est-à-dire que le device complet est encrypté, il n'y a absolument aucun besoin d'effacer quoi que ce soit. Vous perdez la clé. Une clé perdue, ça signifie que les messages, enfin les informations qu'il y a sur le device n'ont plus aucune signification, tout simplement.
D'accord, ok. Donc on formate des disques avec X passages, en fait c'est complètement Google, on ferait mieux de fonctionner comme ça, quoi.
Ah, pour ça, il faut fonctionner comme ça.
Pour ça, il faut que le disque soit encrypté dès le départ.
Exactement, exactement. Donc après, on pourra discuter effectivement de comment faire sur un PC, parce que après, ça va dépendre du système d'exploitation et de la plateforme.
Ce principe, en dehors du fait que avant même l'OS s'est chiffré, comme tu nous le disais, le principe, il est appliqué aussi sur Android, c'est ça, si je me trompe pas ?
Pas du tout.
De manière optionnelle, si.
Non, mais alors le truc, c'est que non, ça marche pas exactement de la même manière, parce que sur Android, il n'y a pas d'encryptage hardware. L'encryptage est fait au niveau OS, au niveau du système d'exploitation. C'est un encryptage qui se base sur l'encryption des disques de Linux, en fait. Hein. Et c'est software. C'est pas exactement la même chose. Néanmoins, effectivement, une fois que c'est que la totalité du disque est encrypté, la perte des clés signifie la perte des données aussi.
C'est ça,
pareil. C'est pareil. Cela dit, ce n'est pas activé par défaut sur les appareils Android. Ça devait l'être. Alors là, on prend un petit peu d'avance sur les sujets d'après, mais c'est très bien en fait. Hein. En fait, sur Android, c'est pas automatique l'encryptage, tout simplement parce que n'est mine de rien encrypter la totalité des données, ça demande du calcul. C'est-à-dire que ça se fait pas tout seul, quoi. Hein. Donc AES, c'est un algorithme qui ressemble un petit peu dans son idée à un hachage cryptographique, sauf que vous rajoutez la clé. Donc en fait, AES, par exemple, qu'est-ce que vous faites ? C'est un encodage par bloc, donc vous prenez des blocs de 128 bits, et on prend une clé de 256 bits, et ce qu'on fait, c'est qu'on va combiner finalement la clé avec le message, en faisant des permutations de substitution, comme ça, et on va le faire plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on va faire plusieurs rounds. Alors, chaque round, on va donc créer une autre clé à partir de la clé de départ, là encore en mettant un petit peu le boxon, et on va combiner comme ça, et on va faire 12 rounds, 14 rounds, 16 rounds, justement, tout ça pour propager l'entropie dans le message, et pour avoir à la fin un message complètement impossible à suivre. Donc, ce cryptage, donc, c'est quand même quelque chose qui requiert pas mal de boulot. C'est-à-dire que globalement, même un processeur puissant, il faut quand même qu'il fasse. Et si on a un processeur qui est pas très 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 véloce, comme évidemment Android doit s'adapter à absolument toutes les machines, on a aussi on a aussi des CPU d'entrée de gamme pour lesquels le travail d'encryptage et de décryptage permanent handicape beaucoup la machine, quoi. Du coup, ce sont, à mon avis, vraiment des considérations de performance qui ont poussé Google à ne pas requérir l'encryption par défaut, en fait, sur tous les téléphones. Et du coup, alors que ça devait être le cas sur Lollipop, c'est toujours pas le cas, et ça sera pas non plus le cas sur Marshmallow. On aura, je pense pas non plus que sur Marshmallow, on aura un cryptage obligatoire. tout simplement parce que Google ne maîtrise pas, si tu veux, les plateformes. Apple est capable de faire des téléphones et de concevoir les systèmes en même temps, donc il peut requérir que tous ces téléphones aient une petite unité d'accélération cryptographique, mais c'est pas forcément le cas de tous les téléphones Android, et donc je pense que c'est pour ça que l'encryption n'est pas activée par défaut sur les téléphones Android, quoi.
Mais ils en parlent quand même régulièrement et un jour on risque d'y venir parce que enfin même si effectivement tu le dis sur Marshmallow sera pas activé par défaut régulièrement on entend Google qui nous dit nos téléphones seront cryptés pour tout le monde, enfin moi je l'ai vu passer plusieurs fois cette info là.
Oui, mais tout à fait. Ils sont un peu obligés parce que effectivement, de l'autre côté, il y a effectivement Apple. Parce qu'Apple, bon, on en parlait, il y a un niveau de protection hardware qui concerne pas l'utilisateur en fait, puisque la clé qui est utilisée pour encrypter totalement un iPhone, c'est l'idée de l'appareil, c'est l'identité de l'appareil. Donc ça, c'est quelque chose qui ne concerne pas l'utilisateur, qui est transparent pour tout le monde, même pour l'OS, pour l'utilisateur, pour tout le monde. Par contre, il y a encore un autre niveau d'encryption par-dessus cette encryption-là sur les iPhones, et c'est un niveau d'encryption fichier par fichier qui est d'ailleurs qui en fait dépend de la manière dont on veut encrypter, puisqu'il y a en fait plusieurs schémas d'encryption sur un iPhone. Et là, en fait, on a une encryption qui est par-dessus cette encryption hardware et qui est software et qui, elle, par contre, utilise le mot de passe de l'utilisateur. Donc, en fait, pour les fichiers qui sont destinés à être cryptés sur la carte, la flash, sur la flash de l'iPhone, le mot de passe utilisateur est pris, on lui rajoute un grain de sel pour que ça fasse 256 bits, et ensuite on code avec ça. Donc ça veut dire tout simplement que si Apple, n'importe qui, prend un device et n'a pas le mot de passe utilisateur, il n'a pas la clé de 256 bits qui permet d'avoir accès au fichier, et il est matériellement impossible d'avoir accès au fichier. C'est pour ça que Apple dit que, de toute façon, même s'il voulait, il ne pourrait pas aider la justice dans certains cas, ce qui est vrai dans la plupart des cas, en fait. Enfin, disons, en général, c'est vrai, parce qu'en général, si la clé n'est pas connue, le décryptage n'est pas possible. Alors, dans le cas, on ne va pas refaire le tech café, mais dans le cas de San Bernardino, comme c'est un mot de passe faible, c'est un mot de passe puisqu'apparemment c'est un truc à 4 digits, donc il n'y a que 10 000 possibilités. Bon, ben 10 000 possibilités, c'est extrêmement simple à casser par force brute. Mais si on avait, par exemple, un mot de passe qui faisait plusieurs, voilà, qui faisait, je sais pas, une dizaine de caractères alphanumériques, ce serait beaucoup plus compliqué. Et du coup, il deviendrait matériellement impossible il pourrait rapidement devenir matériellement impossible, même à Apple, de déchiffrer le contenu d'un iPhone. Ou plus généralement, d'ailleurs, il deviendrait matériellement impossible de déchiffrer le contenu d'un téléphone crypté par AES si on n'a pas le mot de passe, pourvu que ce mot de passe soit suffisamment fort, tout simplement.
Ok, bah écoute, je trouve qu'on y voit plutôt clair. On a fait la façon de chiffrer les données sur iPhone, et là on comprend bien effectivement pourquoi est-ce qu'Apple dit qu'ils n'ont même pas eux-mêmes la possibilité de le faire. On a fait un petit tour du côté de chez Google. Est-ce qu'il y avait d'autres aspects que tu voulais aborder ?
Oui, il y en a plein. Bien entendu. Tu parlais des... on pourrait parler du cryptage asymétrique, donc pour avoir une idée de ce que c'est. Le cryptage asymétrique, c'est quand effectivement on a une clé, deux clés différentes, une pour encoder, une pour décoder, tout simplement. Alors je dis tout simplement, ben c'est pas complètement évident
en pratique. C'est pas naturel déjà en tout cas. Enfin...
Alors c'est pas naturel, mais ça sert à quoi ? C'est ça le truc, c'est à quoi ça sert d'avoir deux clés quand on peut en avoir qu'une ? Ben, tout simplement parce que quand on transmet des messages, quand toi tu transmets un message à Cédric, si tu veux qu'il puisse lire ce que tu écris, il faut lui donner la clé. Et bon, évidemment, la clé, pour la transporter, tu me la donnes à moi, parce que moi, je suis quelqu'un en qui tu as confiance.
Ça va pas, non.
Mais en fait, je suis un gros crevard, et puis je vais utiliser la clé moi-même, et je vais la divulguer, je vais faire des tas de saloperies avec. Et donc, c'est le problème du transport des clés, de la diffusion des clés sur des canaux qui ne sont pas sûrs. Et donc, pour éliminer totalement ce problème, comment on fait ? Eh ben, la manière la plus intelligente, c'est d'avoir deux clés. C'est-à-dire que quand toi, tu veux écrire un truc à Cédric, tu vas créer deux clés. En fait, tu vas générer deux clés. Une clé pour crypter et une clé pour décrypter. la clé pour crypter, tu vas l'utiliser pour crypter ton message, et surtout, tu vas la garder pour toi. Et ensuite, la clé pour décrypter, tu vas l'envoyer par email à Cédric, parce que tu n'as rien à foutre que les autres puissent regarder la clé de décryptage, parce qu'elle sert qu'à décrypter, de toute façon. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, en faisant ça, quand tu envoies ton message crypté par tes soins à Cédric, il peut utiliser sa clé de décryptage, et il n'y a pas besoin, tout simplement, d'avoir un canal sécurisé, il n'y a pas besoin de faire confiance à la personne qui transporte la clé, tout simplement. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, évidemment, parce que du coup, tu peux transporter des messages ou tu peux transporter des signatures aussi. C'est-à-dire que tu peux authentifier des documents en utilisant ce système, par exemple en utilisant une signature numérique. C'est-à-dire que tu haches ta clé, tu haches ta signature et tu la cryptes avec ta clé de cryptage. Et Cédric, en réutilisant la même fonction de hash, il doit trouver la même valeur. Et ça permettra de savoir que c'est bien toi qui l'a envoyé. D'une manière générale, d'ailleurs, c'est aussi intéressant de se pencher sur la manière dont fonctionnent les connexions sécurisées sur Internet, en fait. Parce que c'est une problématique qui est assez différente, mais qui est reliée, hein, mais qui est un peu différente par rapport à ce dont on parle, qui sont, là on a parlé des cryptages in situ, voilà, pour une personne particulière. Mais comment font, par exemple, deux sites web quand ils communiquent de manière sécurisée ?
Bonne question.
Par SSL, par exemple, quand vous faites HTTPS sur un site, vous connectez de manière sécurisée. Ma femme, ok, mais ça marche comment ?
Bah, c'est ce qui se passe, c'est une clé de cryptage et une clé de décryptage.
Il y a une clé de cryptage et une clé de décryptage, c'est vrai, mais du coup, comment ça marche ? C'est-à-dire, qui a la clé ? Cette clé de décryptage, elle est où ? Comment elle est gérée ? Comment est-ce que le navigateur sait quelle clé utiliser, tu vois, c'est pas du tout évident tout ça, c'est pas évidentes. Et en fait, souvent, il y a deux systèmes qui sont utilisés. Soit il y a un système à la RSA qui est basé justement sur des gestionnaires de clés, donc ça veut dire qu'en fait, il y a des tiers de confiance qui sont des gestionnaires de clés, et qu'on a accès à ces gestionnaires de clés. Et on a aussi les connexions où on a des clés éphémères. Et en fait, ce qui est intéressant, et je voulais en parler un petit peu, c'est que c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé pour les connexions sécurisées sur Internet. Et il y a des chercheurs qui se sont penchés donc sur une des trucs les plus utilisés, une des méthodes les plus utilisées, qui s'appelle la Diffie-Hellman. Et cette Diffie-Hellman, en fait, ils ont révélé qu'elle n'était pas aussi sûre que ce qu'on pensait. Et il n'est pas impossible que la NSA utilise justement des failles, si tu veux, dans ce système pour faire de la surveillance de masse. Alors pourquoi je voulais en parler ? Parce qu'on a parlé justement donc du cas Apple dans le Tech Café, et je disais que la surveillance de masse, j'étais pas pour, si tu veux, tu vois, mais que c'était pas l'enjeu. Alors si on reparle de surveillance de masse, on va essayer de voir justement comment ça se passe, tu vois, c'est-à-dire comment vraiment ça se fait de manière plus ou moins, je dis même plus ou moins, parce que ça va être très, très simplifié, pratique. Alors, le Diffie-Hellman, c'est une manière extrêmement intelligente de partager une clé entre deux personnes sans que ces deux personnes n'aient à échanger quoi que ce soit, en fait. Alors, c'est parce qu'en fait, qu'est-ce que vous voulez faire ? Toi, Cédric, tu veux envoyer des choses à Guillaume, de manière cryptée. Mais bon, si vous voulez crypter votre message, il va falloir convenir d'une clé. Mais cette clé, comment vous allez faire pour en convenir ? Vous ne pouvez pas l'envoyer sur le réseau de manière claire. Ça ne marcherait pas.
Non.
Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser l'algorithme de Diffie-Hellman. L'algorithme de Diffie-Hellman, c'est un algorithme qui repose sur les nombres premiers, sur les calculs dans des corps de nombres, en fait. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez convenir, en fait, d'un corps, vous allez convenir d'un nombre, tout simplement. Cédric va envoyer un nombre en clair, hein, va envoyer un nombre à Guillaume. Guillaume va envoyer un autre nombre différent à Cédric, en clair. Chacun de votre côté, vous allez faire un calcul et vous allez tous les deux tomber sur le même nombre.
D'accord.
Vous ne savez pas quel est ce nombre, c'est-à-dire vous n'avez pas prévu quel est ce nombre, c'est un nombre qui sort un petit peu de nulle part. Ni l'un ni l'autre, vous n'aviez prévu quel serait ce nombre, mais ce dont vous êtes sûr, c'est que ce nombre est le même des deux côtés. Pourquoi c'est génial ? Bah, tout simplement parce que... Merde. Désolé. Tout simplement parce que cette clé, ce nombre va pouvoir être utilisé comme une clé AES. Et une fois que vous aurez, que vous avez tous les deux la même clé, bah, si vous utilisez un OSDL group de cryptage symétrique, vous pouvez crypter et décrypter vos messages sans avoir eu à échanger les clés. Vous avez juste échangé deux nombres, et ces deux nombres, en fait, ne suffisent pas pour avoir la clé.
Donc, si voilà. Si t'as les deux, si.
Non.
D'accord,
non.
On n'est pas d'accord.
Pas tout à fait, parce que j'ai un petit peu simplifié le truc. C'est-à-dire, j'ai dit, vous envoyez le nombre. En fait, vous n'envoyez pas exactement le nombre que vous avez choisi, vous envoyez un calcul, déjà. C'est-à-dire que vous, en fait, vous convenez d'un contexte. Ce contexte, c'est le groupe dans lequel vous allez opérer, un groupe de nombres, donc c'est un groupe mathématique, c'est une entité mathématique. Vous allez convenir de ce groupe-là et vous allez faire des calculs, en fait, dans ce groupe-là, en convenant d'une racine, quoi, d'une base, en fait. Mmh. C'est une racine primitive du groupe. Bon, et ça, en fait, c'est fixé, c'est un contexte. Et dans ce contexte-là, au lieu d'envoyer directement le nombre, tu envoies pas directement le nombre, mais tu envoies la base puissance le nombre. Ce qui fait qu'en fait, tu envoies pas directement la clé en clair. Tu envoies une opération, si tu veux, complexe à inverser pour quelqu'un qui écouterait. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Et ensuite, vous faites localement chacun des calculs avec les nombres que vous avez choisis et en utilisant directement ce qui est passé, quoi. Mais les nombres que vous avez choisis, voilà, ils circulent pas exactement en clair. C'est tout, ça, voilà. Je sais pas si j'étais très clair, très honnêtement.
Si, très clair. Si.
Et voilà. Et donc, bon, enfin, pourquoi je parle de ça? Alors voilà, je parle de ça parce que tout simplement, cette méthode-là, en fait, elle sert donc à synchroniser des clés pour après être utilisé donc avec un algorithme de cryptage symétrique, et donc vous pouvez utiliser AES, par exemple, pour discuter entre vous avec une clé dont vous avez convenu. C'est une clé éphémère, c'est-à-dire que vous ne la réutiliserez pas forcément, d'ailleurs il est conseillé de ne pas la réutiliser, hein, tout simplement, et donc vous allez pouvoir vous connecter de manière sécurisée sans échanger des clés en clair, et c'est comme ça que fonctionnent beaucoup de VPN, beaucoup de connexions sécurisées en SSL, en TLS sur Internet, et ça, c'est a priori, j'allais dire, c'est dans le principe quelque chose de très très sûr, en fait. Alors pourquoi je dis dans le principe? Tout simplement parce que la plupart du temps, quand on parle de trucs de cryptage, c'est-à-dire de procédés de cryptage et tout ça, il y a la cryptanalyse, c'est-à-dire la théorie mathématique, qui dit à quel point une méthode est sûre. Bon. Donc, en général, les méthodes que j'ai citées sont très sûres. Il y a des attaques mathématiques qui sont connues. En général, elles sont très, très, très complexes à mettre en œuvre. Et, par exemple, pour AES-256, il y a des attaques, mais ces attaques, elles ne sont pas réellement applicables parce qu'elles demandent des temps de calcul qui sont extrêmement longs et qui, même s'ils sont beaucoup moins longs que la force brute, ils sont quand même trop longs pour être utilisés en pratique. Par contre, il faut distinguer la cryptanalyse, c'est-à-dire l'efficacité théorique d'une méthode, avec son implémentation. C'est-à-dire que quand on implémente quelque chose avec des vrais codes, des vrais gens et tout ça, eh bien là, il y a des vulnérabilités qui peuvent apparaître. Et c'est des vulnérabilités qui sont liées à l'implémentation, qui ne sont pas liées au truc, quoi, qui ne sont pas liées au principe, si tu veux, à la théorie, au principe. Alors, c'est exactement ce qui se passe avec Diffie-Hellman. Diffie-Hellman, c'est quelque chose qui est très très sûr en général. Mais bon, ça suppose, si tu veux, que vous preniez des précautions. C'est-à-dire, quand vous utilisez Diffie-Hellman, le contexte dont je parlais, il devrait varier, en théorie, tout le temps. Et les nombres que vous choisissez de vous envoyer, ou sur lesquels vous choisissez de calculer, ils devraient varier aussi. Ça doit être des nombres qui sont calculés d'une manière particulière, pour pas qu'il y ait de périodicité, pour pas qu'il y ait de problèmes, pour pas qu'il y ait de vulnérabilité. Mais en théorie, c'est comme ça, mais en pratique, en fait, on utilise pratiquement toujours les mêmes. Et c'est là le souci, c'est-à-dire que dans Diffie-Hellman, par exemple, le contexte dont j'ai parlé, c'est pratiquement toujours le même. C'est-à-dire que vous utilisez pratiquement toujours les mêmes nombres premiers, les mêmes groupes de nombres pour vous communiquer des choses.
Et en par fait, commodité, en fait.
Par commodité, exactement. Et oui, parce que choisir des nombres qui ont de bonnes propriétés, ben c'est quand même casse-couille. Donc, comme il y a des gens, des universitaires qui ont fait déjà pas mal de recherches et plein de calculs, on utilise des nombres qui sont déjà connus, et puis même on utilise parfois toujours les mêmes, parce qu'ils marchent très bien, en fait, tu vois. Et en théorie, ça pose pas trop de soucis. Sauf que quand on est vraiment, vraiment tordu, on regarde quel est l'état de l'art de la théorie mathématique des nombres qui permet de résoudre le problème. Alors le problème pour les connaisseurs, c'est le problème du logarithme, de l'inverse du logarithme sur les nombres entiers, en fait. Hein. C'est, bon, le truc, c'est que c'est un problème qui est extrêmement compliqué, et en général, ça demande énormément de calculs, donc c'est très sûr. Sauf qu'il y a des chercheurs qui se sont rendus compte que trouver ce logarithme, c'était faisable en faisant beaucoup de précalculs. C'est-à-dire que vous pouvez en fait trouver ce logarithme, résoudre ce problème en plusieurs étapes. Ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup d'étapes qui pouvaient être faites une fois pour toutes. Et qu'une fois que vous l'avez fait une fois pour toutes, ben vous pouvez résoudre le problème relativement vite. Du coup, ils ont essayé. Ils ont essayé sur Diffie-Hellman avec une longueur en fait de. Bon, alors, après, c'est les tailles des nombres, tout simplement, toujours. Donc sur 512 bits, sur des tailles de 512 bits, c'est quand même déjà gros. Ils ont réussi en fait à faire un précalcul qui a pris 2 semaines. Et une fois que le précalcul était fait, en 30 secondes, une minute, ils étaient capables de craquer la communication, c'est-à-dire de trouver les clés.
Ah, ça la fout mal, ouais.
Bon. Alors là, on se dit, mais si c'est ça, c'est affreux. Et c'est vraiment affreux, parce que tout simplement, 512 bits, c'est encore utilisé. Enfin, en tout cas, avant que leur étude ne paraisse, c'était encore utilisé. Parce que c'était un protocole qui était un protocole legacy, quoi. C'était un protocole ancien que les navigateurs supportaient encore par compatibilité. Et donc, c'était encore utilisé. Et pourtant, si tu sais comment faire, tu peux craquer ce code de manière relativement aisée. Alors, aujourd'hui, tout le monde est passé à 1024 bits, hein, minimum, pour le Diffie-Hellman. Est-ce que ça nous met à l'abri? Alors, les révélations de Snowden ont révélé qu'a priori, la NSA était capable d'écouter un très très grand nombre de VPN, de craquer les communications, des communications cryptées un petit peu partout. Et on s'est demandé, mais comment elle fait? Comment c'est possible? Parce que, comme je l'ai dit, les protocoles sont très sûrs, en théorie. Donc, en fait, ils se sont rendus compte que si tu as les moyens de la NSA, si tu as les moyens de mettre des centaines de millions de dollars dans le développement de puces spécifiques et si tu peux utiliser des data centers entiers, il n'est pas impossible d'effectuer les précalculs dont j'ai parlé, de les effectuer pour 1024 bits et de craquer, en fait, les communications qui utilisent certains nombres premiers très très souvent utilisés parce que tout simplement ben, c'est plus simple. Et là on aboutit à une faille majeure en fait de sécurité qui ne provient pas du tout de la
du concept, de la
théorie, mais qui provient uniquement de l'implémentation. Et ils se sont rendus compte, c'est quand même assez incroyable et assez effrayant, que, par exemple, 82% des serveurs Apache utilisaient le même mot de passe, que 10% des SSL utilisaient le même mot de passe, et que, grâce à ça, il est effectivement possible, si la NSA... c'est pas avéré, parce qu'évidemment, la NSA, elle a pas confirmé, hein, mais il est pas du tout impossible qu'en utilisant ce genre de méthode, on puisse écouter et craquer les communications cryptées de millions de sites web. C'est tout à fait envisageable. Donc, c'était un exemple pour montrer qu'effectivement, la surveillance de masse, de mon point de vue, c'est ça. C'est-à-dire, quand vous arrivez à crypter et à écouter simultanément des millions de gens, quand vous essayez de trouver les vulnérabilités dans les codes, et que ça vienne de l'implémentation, tout simplement, bon, ben, voilà, ça c'est un problème. Tout ça, c'est problématique, évidemment. Et il faut faire attention à ça. Donc il y a après la cryptanalyse, il y a aussi effectivement la propreté d'implémentation et la manière dont on fait ça, quoi. C'est très très important, et donc c'est des champs de recherche qui sont toujours très très actifs.
Bon, il n'y a pas de système parfait, ou alors si, il y a des systèmes parfaits mais avec des implémentations forcément humaines, donc probablement potentiellement imparfaites.
De toute façon, je vais te dire un truc, hein, quand tu dis on craque, on hack, on fait ce genre de truc. Quand on craque un code, on ne craque pas un code en réalité. Ce qu'on fait, c'est que, en général, c'est impossible de craquer un truc en AES de 256 pour de vrai. Alors qu'est-ce qu'on fait? Soit on se base sur des problèmes d'implémentation, soit on se base sur le matériel, c'est-à-dire que le matériel, par exemple, il y a des trucs de fou, hein, il y a des chercheurs qui ont remarqué que le temps de réponse des serveurs pouvait donner des informations sur la clé. Parce que les calculs qui sont faits ne sont pas forcément toujours les mêmes, et donc ça ne prend pas forcément toujours le même temps, et donc on peut avoir des informations là-dessus. c'est des trucs de ouf malade. Hein. Et mais bon, de toute façon, la manière la plus simple de craquer quelque chose et qui est utilisée dans 90% des cas, c'est des mots de passe de merde.
C'est l'homme.
C'est tout simplement.
Admin.
C'est le social engineering, c'est-à-dire globalement, les mots de passe de merde sont les mots de passe les plus utilisés. Et c'est comme ça que les pirates, en général, ils arrivent à leur fin. Soit tu as des mots de passe style 1, 2, 3, 4, soit tu as des mots de passe qui sont des mots tout simplement du dictionnaire. Et je veux dire, si ton mot de passe c'est choucroute, ben c'est un mot du dictionnaire, c'est excessivement facile à craquer, quoi.
Pourtant, Dieu sait que c'est bon la choucroute. Je fais une petite parenthèse pour. Je ne sais pas si vous avez regardé l'un ou l'autre, ou les auditeurs, mais je regarde actuellement la série Mister Robot. Grosso modo, pour la faire simple, pour ceux qui connaissent Dexter, c'est un Dexter, mais au lieu d'assassiner les gens, il est pirate informatique, donc il a la double casquette, hein. Il travaille dans une sécurité de société informatique et en même temps il est pirate, et on voit un peu la mécanique qu'il a pour hacker finalement le compte des entourages. C'est vraiment ça, quoi. C'est interpréter ce qu'ils peuvent mettre comme mot de passe. Il se base sur la simplicité des mots de passe que les gens ont tendance à mettre. Concrètement, Guillaume, est-ce qu'on a quelques recos qu'on peut donner par rapport à tout ça? Parce que là, on est tous bien flippés. On est bien conscient que du coup, on peut tout espionner, sauf si on s'est acheté un iPhone à plusieurs centaines d'euros.
C'était pas le but.
Non, j'entends bien.
Je
faisais un peu un raccourci. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on a des méthodes qu'on peut recommander pour la protection des données, grosso modo?
Bon, disons que on va tous, je pense, participer là, parce qu'on a sans doute tous nos petits trucs. Bon, il faut se rendre compte que quand vous perdez votre téléphone mobile, votre tablette, votre ordinateur portable, vous perdez une machine, ce qui est chiant. Et vous perdez aussi toutes les données qui sont dessus. Et que si vous ne faites pas gaffe, toutes ces données peuvent être retrouvées très facilement par des gens qui savent comment faire, quoi. Ce qui veut dire que vous pourriez être encore plus emmerdé d'avoir perdu vos identifiants pour votre banque ou pour je ne sais quel compte en ligne que d'avoir perdu un téléphone que vous rachèterez 200 euros, quoi. Ça peut vous coûter beaucoup plus cher. D'où la considération de pouvoir encrypter son téléphone, ou en tout cas tout ce qui peut être susceptible d'être perdu, qui contient des informations personnelles, voire sensibles, quoi. C'est quelque chose qui est vrai donc pour tout ce que vous portez, tout ce que vous êtes susceptible de perdre, tout ce qu'on est susceptible de vous voler. Donc comment faire? Ça va dépendre évidemment de votre plateforme. Alors, je ne sais pas quelles sont vos plateformes de prédilection et si vous avez prévu des choses là-dessus.
Moi, je suis sur iOS. Moi. Je suis du mauvais côté. Je sais que je suis tout pris chez Apple.
Tu es du mauvais côté, mais qu'est-ce que tu as mis comme mot de passe?
Alors, j'utilise Touch ID. J'ai mis un mot de passe. Et je crois que j'en avais déjà parlé, mais la structure de mes mots de passe est régulièrement la même. Enfin, j'ai deux, trois structures et je les fais varier en fonction du service auquel ça correspond, plus un chiffre. Et je me rappelle de ça comme ça. C'est un moyen mnémotechnique, grosso modo. Et sur mon appareil, c'est grosso modo la même chose. J'utilise vachement Touch ID sur l'iPhone. Et je viens d'activer depuis ce soir le fait que mon téléphone s'efface au bout de 10 tentatives erronées sur iOS.
Et toi, Cédric, t'as prévu quelque chose?
Alors moi, comme beaucoup, j'avais commencé il y a quelques temps avec des mots de passe très simples, et puis deux ou trois niveaux de mots de passe en fonction de la criticité du service à laquelle j'accédais, et j'ai changé un peu mon fusil d'épaule pour depuis un peu plus d'un an. Tout ce que je peux faire en authentification double, je le fais.
Ce qui est
donc
aussi,
Donc mot de passe plus smartphone, et je multiplie les authentifications externes basées sur système. Donc en gros, moi j'ai fait confiance à Google, d'autres le font avec Facebook ou d'autres, enfin c'est pas la question. Et donc en gros, tout ce que je peux faire comme identification avec Google, mais qui sécurise par authentification double l'accès à mon compte, finalement me permet de ne pas rajouter des mots de passe supplémentaires.
Mais toi,
plus le cryptage du téléphone.
Ah voilà, donc tu as crypté quand même ton téléphone. Et toi, Guillaume, est-ce que t'as crypté ton MacBook?
Alors mon MacBook, oui, parce que en plus, alors tiens, c'est marrant, j'avais parlé dans Tech Café du fait que j'avais installé Bootcamp avec une double partition, une pour Windows, une pour Mac, et comme j'avais cette foutue erreur de Bootcamp, j'ai tout exploré et une des solutions qu'on m'avait suggéré sur le web, c'était désactiver FileVault, qui est, je crois, si je dis pas de grosses conneries, cette mécanique de chiffrement du disque. Et donc, depuis, je l'ai réactivé.
Voilà, c'est ça, effectivement.
Et ça prend des plombes.
Ben oui, ça prend des plombes, parce qu'évidemment, si tu as plein de trucs sur le disque, ça doit prendre des plombes. Alors, effectivement, vous avez FileVault OS X, qui est l'équivalent de BitLocker, en fait, sous Windows. Alors, BitLocker, c'était quelque chose qui était réservé aux versions professionnelles de Windows jusqu'à Windows 8.1. À partir de Windows 8.1, pourvu que vous ayez un ordinateur compatible, c'est-à-dire vous ayez un Secure Boot, je pense qu'il faut aussi une unité d'accélération AES dans le processeur. C'est vrai pour les processeurs Sandy Bridge et au-delà, hein, et pour les derniers Atom aussi. Vous pouviez bénéficier d'un encryptage complet, en fait, pour toutes les versions de Windows 8.1, et c'est aussi variable pour Windows 10. Donc si vous avez une tablette Windows 10, une tablette Windows 10 qui est compatible, un ordinateur Windows 10, hein, compatible, vous pouvez aller voir dans les réglages, et vous pouvez activer en fait cet encryptage complet qui revient à ce dont on a parlé pour iOS, et ça va permettre effectivement de mieux vous protéger, parce que si vous avez un laptop par exemple, hein, que vous perdez, même si vous avez mis un mot de passe de log, si vous n'avez pas encrypté le disque, il suffira à l'agresseur d'enlever le disque de votre PC, le mettre dans un autre ordinateur pour lire les données qu'il y a dessus, si elles ne sont pas encryptées. Donc en fait, toutes les données qui sont dessus, y compris tous les mots de passe et les données sensibles, seront susceptibles d'être lues, quoi. Ce ne sera pas le cas si vous faites un encryptage total, donc voilà, vous pouvez faire ça sur Windows. Alors sur Android, on a déjà parlé, hein. Depuis 2.3, hein, ça fait un moment maintenant, hein, pratiquement toutes les versions d'Android sont capables de faire de l'encryption complète. Donc, alors, par contre, il faut savoir, hein, que sur Android, si vous avez un téléphone qui n'est pas excessivement puissant, il est possible que ça dégrade les performances pas mal, hein, tout simplement, parce que toutes les puces ne sont pas équipées d'accélérateurs hardware. Et donc, ça peut dégrader les performances. Donc, c'est à vous de voir à quel point ça vous embête ou pas. Néanmoins, c'est quand même une précaution qu'il est bon de prendre. Et bon, finalement, évidemment, sur iOS, on a déjà dit que c'était de toute façon activé par défaut. Donc, il n'y a rien à dire. C'est bon. Sur Chrome OS, d'ailleurs, je pense que c'est pareil. Et sous Linux, en fait, c'est comme un petit peu comme sous Android, hein, vous avez donc les mêmes, c'est le même système finalement sous Google et sous Android. Vous avez comme Android est un Linux, hein, je commence à être fatigué. Android est un Linux, c'est pareil que sous Linux que sous Android. Et donc c'est DMCrypt, hein, qui est à l'origine de l'encryptage. Alors ça peut dépendre de votre distribution. Mais donc voilà, donc c'est quelque chose à garder à l'esprit, que quand vous faites voler quelque chose, c'est les données qui sont sur un disque dur, elles sont pas difficiles à aller chercher, hein, que vous ayez mis un mot de passe ou pas. S'il n'y a pas d'encryption, c'est très simple à retrouver. Et j'ajouterais que même si vous avez formaté votre disque dur et que vous avez effacé les fichiers qu'il y a dessus, ils peuvent quand même être dans une certaine mesure être retrouvés aussi. Donc voilà. Alors ce n'est pas le cas si le device est encrypté.
Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, on est à ce niveau-là et c'est un niveau hyper important. Et en fait, je me remémore des collègues à qui je recommande juste de mettre un mot de passe sur leur smartphone, quoi.
C'est un bon début, hein.
Ouais, ça me paraît tellement. Pour moi, c'est même pas un début, en fait. Tu vois, ça me choque.
Par commodité, il y a beaucoup de gens qui mettent pas de mot de passe sur le smartphone pour l'avoir.
C'est incroyable.
Pour avoir accès tout de suite. C'est donc évidemment, hein, là, il y a juste aucune protection. Donc, vous êtes à poil. Bon, après, c'est un choix. C'est-à-dire que chaque étape, finalement, elle coûte un petit peu. C'est-à-dire, vous mettez un mot de passe sur votre téléphone, ben, il faut le rentrer à chaque fois. Ça
mais le coût, enfin, bon, on va pas refaire le débat, mais le malheureusement, on a tendance à considérer que le coût immédiat. Or, ce qui serait intéressant, c'est de considérer le coût que tu as si jamais tu perds ton smartphone, plutôt que le coût que ça, t'a, que ça t'engendre à chaque utilisation. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, bien sûr, mais il faut faire attention à tout. Par exemple, il y a beaucoup de gens, et moi y compris, bien sûr, on utilise des clés USB pour transférer des données. Parfois, on a des données personnelles dessus. Parfois, on a même, il y a même certains qui ont des listes de mots de passe parce qu'ils s'en souviennent pas, dans des fichiers texte en clair sur leur clé.
C'est dingue, ça.
Ça peut arriver, c'est compréhensible. Il y a tellement maintenant de comptes qu'on peut avoir, il y a tellement de trucs. Bon, c'est compréhensible. Mais gardez bien à l'esprit que si vous perdez cette clé, ça peut s'avérer catastrophique. Ouais, donc il faut faire un peu attention, quoi.
On va redoubler de vigilance. En tout cas, on aura vu beaucoup plus clair avec ce hors-série chronique des composants spécial chiffrement des appareils. Comment se protéger, par où commencer et par où terminer. Je pense qu'on aura vraiment fait un tour très complet de la question. Merci beaucoup, Guillaume, pour avoir préparé tous ces éléments. Merci à toi, Cédric, qui nous a accompagnés. Je ne demande pas à Guillaume, mais où est-ce qu'on peut te retrouver, Cédric, sur Internet ?
Sur Twitter, CEDSIB, CEDSIB.
Merci beaucoup.
On ne retrouvera jamais, je suis crypté. Un ES 256.
Moi, pareil, ma clé publique, c'est quand même Guillaume Vendée sur Twitter. Et merci à vous qui nous écoutez et à très très bientôt pour un prochain épisode de Tech Café ou de la chronique des composants. Ciao, ciao.
Ciao.
Bye.
Oh putain, c'est fini. Eh ben,
bonne nuit.
T'as bien enregistré, Guillaume, on est d'accord.
C'est des fous. Crypto, oui, oui, oui.
On va pouvoir publier 4 épisodes en 4 jours.
En 4 jours, je sais pas. 3, 2, 1.